Ce matin, nous allons faire une petite méditation sur l'épître aux Galates, au chapitre 5, qui, d'une manière générale, parle de la liberté que nous avons en Jésus-Christ. C'est le thème général de cette épître, comment trouver et comment conserver cette liberté. Et les versets que nous méditerons plus particulièrement sont les versets donc du chapitre 5, des versets 16 à 25. Avant de les lire, je fais une courte introduction à l'épître aux Galates, dont le thème est la liberté chrétienne, notre liberté spirituelle que nous avons en Christ. On appelle parfois cette épître la grande charte de la liberté chrétienne. Cette lettre de Paul adressée aux Galates, aux diverses églises que Paul avait implantées en Galatie, disons, son but était d'empêcher les Galates de subir la mauvaise influence de faux docteurs judaïsants qui venaient probablement de Jérusalem, et donc de retomber, eux qui venaient à peine de sortir de l'esclavage de l'idolâtrie païenne, d'éviter de se mettre sous un autre esclavage, celui de la loi judaïque. Si donc ils franchissaient ce pas, les églises galates étaient fortement compromises, et donc Paul, on peut dire qu'il met vraiment le paquet pour essayer de les dissuader d'écouter les sirènes du légalisme. Cette épître a été très importante aussi au niveau de l'histoire de l'Église, puisque la réforme, on peut dire qu'elle est quasiment née de l'épître aux Galates. Je vais vous expliquer pourquoi. Un théologien américain qui s'appelle Merrill Tenney a dit ceci: si l'épître aux Galates n'avait pas été écrite, le christianisme ne serait qu'une secte juive de plus, et la pensée du monde occidental serait encore plongée dans la barbarie et le paganisme. Et donc c'est le 31 octobre 1517 que Luther, qui venait d'achever son cours sur l'épître aux Galates, allait placarder ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Et c'était le point de départ de la réforme qui était en quelque sorte une réaction contre les excès du catholicisme, qui était un peu de la même espèce que les excès des faux docteurs galates. Donc il s'agissait pour Paul de ramener les Galates à ce que les réformés appellent la sola gratia, sola fide, à la seule foi en Christ et la seule grâce pour le salut. À propos des excès du catholicisme de cette époque, il y a une petite anecdote tragique, mais amusante, mais tragique surtout. C'est que pendant que Luther faisait son cours sur l'épître aux Galates, un frère dominicain qui s'appelait Tetzel était chargé par le clergé catholique de vendre des indulgences pour pouvoir restaurer ou reconstruire même la basilique Saint-Pierre à Rome. Alors, en quoi consistaient ces fameuses indulgences? Eh bien, le clergé romain promettait aux gens qui les achetaient d'obtenir tout simplement le pardon des péchés, c'est-à-dire sans qu'on ait besoin de Christ. Et pour donc motiver les pécheurs, Tetzel répétait toujours le même thème. Il disait: sitôt que sonne votre obole, du feu brûlant, votre âme s'envole. C'est-à-dire, en donnant de l'argent, on pouvait être sauvé et ne pas aller en enfer. Voilà. Nous allons lire le texte maintenant de la méditation. Donc, c'est Galates 5 à partir du verset 16 jusqu'au verset 25. Je lis. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ce qui veut dire que la liste n'est pas exhaustive. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Le plan sera très simple, puisque c'est le plan que suit l'apôtre Paul dans son épître que je vais suivre. Le premier point, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Saint-Esprit, ici, est mentionné 7 fois et la chair, 5 fois. Mais attention, dans le langage biblique, la chair n'a pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui purement, bassement physiologique et physique. Quand on parle de la chair dans la Bible, il s'agit de la vieille créature déchue en nous, ce que Paul appelle le vieil homme, notre nature pécheresse. Quant à l'esprit, bien évidemment, malgré certains traducteurs, c'est le mot esprit avec un E majuscule, il s'agit du Saint-Esprit. Et non pas de notre pauvre esprit qui pourrait nous faire quoi que ce soit pour nous sanctifier ou autre. Le Saint-Esprit, en fait, est le seul à pouvoir s'opposer à notre nature pécheresse. Sans son action, nous serions perdus. Et son rôle, c'est de nous apporter le salut, bien sûr, mais aussi, c'est de le mettre en œuvre en nous. C'est-à-dire que Christ nous a obtenu le salut à la croix et par sa résurrection il y a 2000 ans, mais le Saint-Esprit nous l'applique maintenant dans la durée, puisque nous vivons dans le temps. Notre problème, bien sûr, puisqu'il s'agit surtout de sanctification, c'est que ce n'est pas toujours facile de suivre de laisser opérer le Saint-Esprit en nous et d'être docile à ses injonctions. Notre nature pécheresse est souvent bouillonnante. Elle commence à bouillonner dès que quelque chose nous contrarie ou quelqu'un qui nous vexe ou des choses comme ça. Si quelqu'un nous manque d'égard par un mot maladroit, spontanément, nous avons tendance, à cause de notre vieille nature, à ressentir quelque chose de négatif. Et puis, si ça dure dans le temps, ça sera de la rancœur. Donc voilà, c'est un peu un piège, cette vieille nature. Donc, il faut faire attention à ça, parce que ça peut aller très loin. Et au verset 15, donc du chapitre 5 de Galates, Paul nous donne un exemple de cela. Il dit aux Galates, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Même si ça ne va pas jusque-là, sans l'intervention de l'esprit, il nous serait humainement totalement impossible d'éprouver de l'amour ou de manifester de l'amour à quelqu'un qui nous a blessés ou qui nous a laissés lésés en quelque manière ou fait du mal. Et donc, nous nous rendons compte que notre nature pécheresse est incapable de sécréter, si on peut dire, de l'amour ni pour Dieu ni pour les autres, spontanément. Sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible, mais avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons le faire. Ce qui nous amène au point suivant. L'antagonisme entre l'esprit et la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Nous ressentons donc des tiraillements intérieurs à cause de cette cohabitation en nous entre la chair et l'esprit et le Saint-Esprit de l'autre. Nous devons faire beaucoup d'efforts pour faire taire les tentations qui continuellement nous agressent et que l'on peut ressentir comme un véritable harcèlement de la part des tentations que le vieil homme exerce sur nous. Cet aspect conflictuel entre l'esprit et la chair est souligné par Paul notamment dans Romains 7, dans Romains 7, les versets 23-24, quand il dit « Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui me délivrera de ce corps de mort. » Et il donne tout de suite la solution pour ceux qui sont dans ce cas. Il ouvre le chapitre 8 en montrant que la seule délivrance possible, c'est par l'esprit qu'elle peut se faire. Et le mot esprit avec un grand E et revient 19 fois dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Donc l'Esprit de Dieu œuvre surtout, on peut dire aussi l'Esprit de Christ, la Bible le dit souvent, œuvre surtout à détruire en nous le péché et à le remplacer par la sainteté. Paul dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Sans l'esprit, c'est impossible, c'est une évidence. Chacun est passé par là pour voir que on ne veut même pas être délivré du péché si on n'a pas l'esprit de Dieu en nous. Il nous faut aussi discerner à propos de cela qu'il y a une grande différence entre ressentir une impulsion à pécher et consentir. La parole de Dieu nous prévient que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ressentir un mouvement de colère, c'est une chose, mais cultiver ensuite de la rancœur, c'en est une toute autre, c'est le péché. Le psaume 4, au verset 5, dans la traduction du Semeur, dit « Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher ». Une saine colère, ça peut se produire devant l'injustice, mais si on commence à entretenir des racines d'amertume en nous pendant des jours ou même des années, comme ça arrive à certains, c'est le péché. C'est aussi une différence qu'il faut faire entre pécher accidentellement et pratiquer le péché délibérément. Par l'esprit, nous devons résister aux sollicitations de la chair. Et les sollicitations de la chair se présentent toujours avec un caractère d'urgence absolue. Tu dois faire ça. Ce sera bien, tu verras. Et donc, ce qui est faux, c'est le plus gros mensonge qui puisse exister. Nous devons donc lutter pour que nos pulsions pécheresses ne se transforment pas en pratique délibérée du péché. Et le mot qu'utilise Paul dans notre texte, à deux reprises, je crois, quand il parle d'accomplir les désirs de la chair, le mot grec, c'est prasso, qui a donné plein de mots, la pratique, la pragmatique, etc. Mais surtout le temps, qui est le participe présent, ça indique toujours une manière de vivre délibérée et habituelle. Donc, si on fait le mal de cette manière, on pêche. Mais si les chrétiens ne sont pas à l'abri de la chute, on peut tomber accidentellement. C'est la pratique délibérée qui fait le péché. Il y a un monde entre ressentir de la colère, par exemple, pour avoir subi une injustice, et ensuite, donc, comme dit l'Épître aux Hébreux, cultiver une racine ou des racines d'amertume. C'est tout un monde. Et Paul ajoute ensuite, à propos de cet antagonisme entre les deux, « Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » C'est un autre point. Les non-croyants s'imaginent que la liberté, c'est de faire ce qui leur plaît. C'est d'ailleurs une notion très galvaudée, la liberté, et ça ne veut rien d'un individu à l'autre, ça peut avoir des sens différents. Mais ça n'est pas faire ce qui nous passe par la tête, n'importe quoi. La parole de Dieu affirme au contraire que être libre, c'est avoir une maîtrise de soi telle qu'on ne pêche pas. C'est s'abstenir de pécher. Ça, c'est la liberté. Et donc, le Saint-Esprit s'oppose à la chair, justement, dans ce but, pour que nous ne fassions pas le mal que notre vieille nature nous rendrait enclin à faire. L'Esprit nous maintient la tête hors de l'eau vis-à-vis du péché, même s'il y a des chutes occasionnelles. Sinon, le péché, comme dit l'Épître aux Hébreux, nous enveloppe si facilement que qui pourrait subsister sans l'Esprit de Dieu, personne. Notons pour terminer ce point que la deuxième partie du verset 17 peut être traduite d'une autre manière et certaines traductions le traduisent d'une autre manière. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Le mot grec « ina » peut avoir le sens de « but ».« Ina », ça veut dire « pour que », mais ça peut avoir aussi le sens de « conséquence », c'est-à-dire ils sont opposés entre eux de telle sorte que vous ne pouvez pas faire le bien que vous voudriez faire. Et Paul résume ces deux sens dans Romains 7, quand il dit « Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. » Donc voilà, c'est une autre traduction, mais on peut prendre les deux, elles sont aussi bonnes l'une que l'autre. Et bibliques en tout cas. Nous passons maintenant au point suivant. Le Saint-Esprit, l'Esprit avec un grand E, et la loi. Ce qui pose quelquefois des problèmes aux chrétiens. Le verset 18 nous dit « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Pourquoi » Pourquoi? C'est le verset 14 de Galates 5 qui répond « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Saint Augustin disait « Aime ton prochain comme toi-même et fais ce que tu voudras. » C'est-à-dire que quand vous aimez votre Dieu d'abord de tout votre cœur et ensuite votre prochain comme vous-même, vous ne pouvez pas le léser ou le voler ou le tuer ou convoiter sa femme en aucune manière. Donc vous obéissez à la loi par le fait que vous suivez le Saint, que vous marchez selon l'Esprit. Il y a aussi un autre élément de réponse à la question pourquoi est-ce que je ne suis plus sous la loi si je suis conduit par l'Esprit? C'est une réponse simple. Dans l'Ancien Testament, si on peut dire, la loi agissait comme par contrainte extérieure, comme une espèce de tuteur qui maintient une plante droite pour pas qu'elle soit tordue. Mais c'était comme une contrainte extérieure. Mais maintenant, depuis que, à notre conversion, Dieu a remplacé notre cœur de pierre par un cœur de chair, maintenant, c'est différent. Nous suivons toujours la loi, ne serait-ce que pour nous sanctifier, pour marcher dans la sanctification. Mais le Saint-Esprit utilise la loi pour nous éclairer en quelque sorte de l'intérieur. C'est plus une contrainte extérieure, c'est de l'intérieur. Le Saint-Esprit nous éclaire. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, pour dire la citation exactement. Donc, ça n'est plus du tout la même manière, le même processus. Et d'autre part, notre salut, bien sûr, n'est plus conditionné par notre obéissance à la loi, puisque notre salut est obtenu précisément par l'obéissance parfaite de Christ pendant la durée de son ministère terrestre. Il a obéi jusqu'à la mort. À la mort de la croix. Voilà, la conséquence de cela est que l'Esprit nous permet de remplacer, pour revenir aux citations de tous les péchés qui sont décrits dans les versets 20 et 21, l'Esprit nous permet donc de remplacer les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, etc., etc., par, verset 20, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, qui sont les fruits de l'esprit. C'est au verset 21. Donc d'un côté, Jésus a dit, celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Donc vous n'avez pas le choix d'un côté où vous n'êtes pas croyant et vous êtes esclave de la chair, et de l'autre, vous êtes croyant et donc vous portez les fruits de l'esprit et du salut. Paul donne un échantillon de 15 œuvres de la chair qui vont de la débauche aux excès de table. Je serai bref sur cette liste. Et d'ailleurs, il ne dit pas tout, il dit et les choses semblables. Donc il y a bien d'autres péchés qu'on peut commettre. Alors, les œuvres de la chair, telles que Paul les liste ici, il commence par la sexualité, ce qui est maintenant le sens du mot charnel, chair, c'est surtout aujourd'hui, hein, au XXIe siècle, surtout ce qui concerne la sexualité. Donc, il commence par là. La débauche, porneia en grec, qui a donné pornographie, l'impureté, le dérèglement, le mot grec aselgeia, c'est le manque de continence. Deuxième domaine, c'est le domaine religieux, qui est illustré par l'idolâtrie et la magie, le domaine religieux. Et est-ce que vous saviez que le mot grec pour dire magie, la magie, c'est pharmakia? Et est-ce que vous devineriez pourquoi? C'est toujours lié dans les cultures du monde. La magie, l'exercice de la magie est toujours lié à l'absorption de drogue. Voilà, la magie en grec on dit pharmakia. C'est amusant, mais il vaut mieux pas toucher à ça. Le troisième domaine, c'est le domaine relationnel. Donc Paul parle des rivalités, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, des divisions, des sectes, de l'envie. Et enfin, quatrième domaine, c'est le domaine privé, le domaine individuel, qu'on peut pécher tout seul. Il est illustré par l'ivrognerie et les excès de table. Ce sont des péchés qui n'impliquent pas forcément les autres. ils traduisent plutôt un manque de maîtrise de soi de quelqu'un. Après avoir cité ces 15 œuvres de la chair, Paul ajoute « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » On le répète, il s'agit de pratiques habituelles de péché. Il ne s'agit pas de chute accidentelle. Maintenant, les fruits de l'esprit. Il en cite 9 qui sont caractéristiques et qui se manifestent, qui doivent se manifester chez ceux qui sont convertis, chez les chrétiens. Il les cite par groupe de 3. L'amour, la joie, la paix. Deuxièmement, la patience, la bonté, la bienveillance. Ce sont des fruits de l'esprit qui concernent nos relations avec Dieu et les autres, verticales et horizontales. Et troisième, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Second traduit la foi, mais le terme grec pistis veut aussi dire la loyauté, la fidélité envers quelqu'un ou une alliance. Ça veut dire ça aussi. Curieusement, il existe un mot dans le grec du Nouveau Testament qui recouvre plusieurs de ces notions de vertu biblique, disons, de l'esprit. C'est le mot epieikeia qui contient, qui est souvent traduit par indulgence, mais qui contient plusieurs notions, qui contiennent presque toutes ces notions qu'on vient de voir. Douceur, maîtrise de soi, etc. L'idée de patience aussi, ça contient de bonté, de bienveillance, de douceur, de maîtrise de soi. Voilà, un seul mot grec contient tout ça. Epieikeia. Essayons d'expliquer cela. Par exemple, quand la Bible nous demande, c'est au verset 13, de nous rendre par l'amour, serviteurs les uns des autres, il ne s'agit pas vraiment de concevoir cet amour comme un sentiment. Mais c'est plutôt, ce n'est pas un amour de sentiment, mais un amour d'action et de volonté. Supposez par exemple que dans l'église, un frère ou une sœur vous ait causé un tort quelconque ou qu'il ait un caractère difficile ou des manières qui vous énervent un peu. Alors, vous n'allez pas écouter vos sentiments spontanés. Ils seront forcément négatifs. Mais si vous marchez selon l'esprit, si vous marchez par l'esprit, on dit aussi, alors vous pratiquerez l'epieikeia, c'est-à-dire toutes ces notions de patience, bonté, bienveillance, douceur, maîtrise de soi. C'est une attitude volontaire et non sentimentale qui fait que l'on est disposé à s'accommoder et à s'adapter aux habitudes de chacun, même si elles sont irritantes ou énervantes ou désagréables pour nous. Et à propos de quelqu'un qui nous aurait offensé, il faut l'aimer comme nous-mêmes, dit Luther. Quelqu'un qui nous a offensés, il faut l'aimer comme nous-mêmes, malgré l'offense. Et Luther ajoute, car ce frère ne cesse pas d'être ton prochain pour avoir fauté à ton égard ou pour t'avoir lésé. C'est au contraire le moment où il a le plus grand besoin de toi et de ton amour. Dans quel but, on change de registre, dans quel but est-ce que Paul contraste donc les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit? Numéro 1, sans doute, pour que les Galates puissent voir clairement que leur faux docteur ne porte pas les bons fruits de l'esprit, mais qui sont esclaves de leur superstition judaïque, de leur religiosité, disons, et que pour montrer aux Galates que leur faux docteur pratique plutôt une œuvre de la chair que de l'esprit. Deuxièmement, peut-être que c'est aussi pour nous exhorter, nous, à nous examiner nous-mêmes, pour savoir si nous sommes bien dans la foi. Et troisièmement, peut-être pour nous exhorter à marcher selon l'esprit et à apprendre à ne plus marcher selon la chair, si nous sommes vraiment convertis. Et ne plus marcher selon la chair, c'est quelque chose qui s'apprend et qui est difficile à apprendre. Ce sera le dernier point. Comment ne plus marcher selon la chair? Paul répond, verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Crucifier la chair. Il s'agit de faire mourir donc notre vieille nature. Romains 6, Paul nous dit dans Romains 6, « Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. » Donc, c'est une réalité spirituelle qui a été accomplie il y a un peu plus de 2000 ans. À la croix du calvaire, nous en sommes rendus bénéficiaires si nous avons placé notre foi en Christ. Nous en sommes participants dès le moment où on se convertit. Quelqu'un peut dire, si nous en sommes bénéficiaires, pourquoi alors est-ce que Paul nous demande de crucifier notre chair, puisque cela a déjà été accompli il y a 2000 ans? C'est toujours la question du déjà et du pas encore, question théologique qui revient souvent sur le tapis. En gros, on peut dire une chose, c'est que le remède a été confectionné il y a 2000 ans, à la croix, et que maintenant, nous avons à nous l'appliquer. Et pour ce faire, la parole de Dieu nous exhorte à ne pas être dans une attitude d'attente passive, mais à cultiver une attitude active. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Le verbe est à la forme active. De même au verset 16, le verbe est aussi à la forme active, marcher selon l'esprit. Je sais que certaines traductions traduisent « laissez-vous conduire par l'esprit », ce qui est une forme presque passive, alors que marcher, péripatéité, c'est non seulement un verbe à l'impératif, c'est un impératif catégorique, parce que si un chrétien ne marche pas, c'est comme quelqu'un qui fait du vélo, il ne va pas tenir, il tombe. Et donc si on n'avance pas, on risque de tomber. Donc marcher selon l'esprit, le verbe est à la forme impérative et à la forme active. Certains traducteurs, je viens de le dire, traduisent « laissez-vous conduire ». Bon, c'est discutable. Je crois que c'est le Semeur qui traduit comme ça, il me semble, la traduction du Semeur. Il faut également qu'il y ait de notre part pour crucifier donc le péché qui habite en nous, qu'il y ait aussi une attitude violente. Il faut exercer une violence quasiment impitoyable contre le péché. Tout ce qui est notre ancienne vie, notre vieille nature, et le mot crucifié n'est pas là pour faire une image. C'est le mot crucifié. Crucifié, c'était la méthode la plus terrible, la plus impitoyable qui existait pour tuer quelqu'un. Et si Paul utilise ce mot-là, dans ce contexte, pour qualifier notre attitude vis-à-vis du vieil homme et du péché, ça n'est pas par hasard. C'est que c'est extrêmement douloureux, un arrachement à soi-même. Mais il faut le faire. Il faut le faire, et en évitant de remettre au lendemain, et il faut le faire, si possible, si on a un péché connu d'un seul coup, c'est difficile, mais si vous avez par exemple la lèpre, ou si vous avez plutôt une gangrène à un bras, vous n'allez pas d'abord couper un doigt, puis ensuite l'autre, puis l'autre. Non, il faut couper le bras d'un coup, ça sera certainement moins douloureux, moins crucifiant, disons. Voilà, c'est tout ça pour dire que la vraie liberté chrétienne a un coût. mais nous avons donc un aide puissant, c'est le Saint-Esprit. Mais pourtant, nous sommes exhortés à chercher activement et pas passivement des moyens de faciliter le processus de mortification. Bon, on peut. Il y a des moyens. La Bible en donne, notamment dans les Proverbes. On peut cultiver pour extirper, par exemple, un péché, des habitudes de péché. On peut cultiver une bonne habitude qui va la remplacer. Ce sera moins douloureux, sans doute. J'ai arrêté de fumer il y a 20 ans. Pour pouvoir y arrêter, c'est très difficile. Quelqu'un qui est fumeur intoxiqué, c'est très difficile de s'arrêter. J'ai remplacé ça par le jogging, les grandes randonnées dans la campagne, bien respirer. Et ça a marché, pas eu besoin de patch. Voilà, remplacer une mauvaise habitude par une bonne, c'est un bon truc. Alors, on trouve toutes sortes d'idées, justement, dans le livre des Proverbes, qui aime bien contraster les bonnes habitudes avec les mauvaises. Et aussi, dans l'histoire biblique, on peut trouver des modèles à imiter ou à ne pas imiter. Par exemple, prenez le péché de David. Quand on lit, je crois que c'est dans 2 Samuel 11, le début, alors que Joab et presque tout Israël étaient partis faire la guerre aux Ammonites, donc c'est les guerres de l'Éternel, vraiment, il est écrit que David resta chez lui à Jérusalem, sans rien faire. Et donc il a été tenté le soir même par Bathsheba. Donc, il faut éviter l'oisiveté. Je pense qu'il y a pas mal de proverbes sur la paresse et l'oisiveté dans la Bible dont nous parle Salomon. Les personnes paresseuses en général, et je reconnais que j'ai une tendance à ça, et oisives, sont clairement plus vulnérables que les autres au péché. C'est sûr. En effet, Satan n'est jamais inactif et Satan ne prend jamais de vacances, si nous en prenons. L'histoire de l'Église fournit aussi de bons modèles à imiter sur ce plan-là. Un jour, un moine demandait à Luther pourquoi Luther travaillait autant, parce que c'était un gros travailleur. Et Luther répond tout simplement, c'est pour dompter la chair. Voilà. Pour terminer ce point, donc, je vous signale aussi un petit livre qui doit être là-bas. C'est le traité de John Owen qui s'appelle « La mortification du péché », qui vous donne vraiment des techniques pointues pour mettre à mort le péché. Ensuite, il reste à le faire, à le mettre en pratique. Une dernière remarque avant la conclusion. L'une des caractéristiques de notre combat contre la chair, c'est que c'est un combat spécifiquement chrétien. Le combat entre l'esprit et la chair n'existe pas chez les gens qui ne croient pas en Dieu ou qui le rejettent. On peut trouver chez les païens, enfin chez les païens, chez les non-croyants, on peut trouver des conflits intérieurs qui ressemblent au combat du chrétien contre le péché. Par exemple, vous prenez Corneille, notre dramaturge national, il donne beaucoup d'exemples de ce genre de conflit intérieur contre la passion. Mais ça n'est pas pour obéir à Dieu. C'est pour par exemple, je ne sais plus dans lequel c'est par patriotisme, la personne lutte contre ses propres passions, simplement par passion pour la patrie. Donc c'est à la limite une plus grande passion qui l'emporte sur une plus petite. Mais ça n'est pas du tout pour glorifier Dieu ou l'honorer. C'est simplement un combat charnel qui est fait avec l'esprit de l'homme, mais l'esprit avec un petit e. C'est différent. Et l'esprit avec un petit e, ça fait partie de la chair. parce que c'est toujours la vieille nature déchue. Il y a aussi des exemples qu'on peut trouver ailleurs que dans Corneille ou Racine. Vous rencontrerez des tas de gens qui se sont drogués et qui, un beau jour, décident de s'arrêter, qui font des efforts et qui parviennent à être délivrés de leur esclavage de la drogue. Ou du tabac, comme j'en parlais tout à l'heure, pour moi qui ai arrêté de fumer. Eh bien, dans ces cas-là, c'est la même chose. C'est un combat, un conflit intérieur qui se fait avec notre propre esprit, petit e, contre la chair. Mais ce n'est pas non plus pour obéir à Dieu ou pour l'honorer. C'est simplement, souvent, la motivation, c'est de par peur de la maladie. Ou alors pour avoir une meilleure santé, ou des choses comme ça. Vous avez aussi dans les milieux politiques des scandales régulièrement de gens peu importants qui courent après des coureurs de jupons, ou des choses comme ça, et qui essaient de toute leur force de lutter contre leur tendance, ou ceux qui cumulent de l'argent pendant qu'ils passent à un rang de responsabilité au gouvernement, ils se disent, bon, je vais arrêter, je vais arrêter. Pourquoi est-ce qu'ils le font? C'est souvent pas pour plaire à Dieu, c'est par peur du scandale, ou de perdre leur poste, ou des choses comme ça, ou de la prison. Voilà, donc le marcher selon l'esprit et trouver la liberté en Christ par l'esprit qui l'a fait habiter en nous, c'est une chose. Mais les conflits de gens qui ne sont pas croyants, c'est tout à fait autre chose. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Nous arrivons à la conclusion. Le verset 16, donc, je répète, dit marcher selon l'esprit. Et il ne dit pas, oui, le verset 16 ne dit pas, il dit marcher selon l'esprit, que je retrouve, j'ai oublié le verset. Marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il ne dit pas marcher selon l'esprit et vous n'aurez plus de tentation charnelle. Il faut s'attendre à ce que jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on rende le dernier soupir, tant qu'on sera sur cette terre, on sera toujours harcelé par la créature déchue en nous, par le vieil homme, et il faut faire avec. Pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Peut-être que c'est comme les chars de l'apôtre Paul, pour éviter qu'il tombe dans l'orgueil spirituel. Peut-être, on ne sait pas, Dieu ne le dit pas. Enfin, je ne le crois pas, dans sa parole. Ce qui est certain, et nous terminerons là-dessus, c'est qu'il existe, même chez les chrétiens, un cas qui peut sembler désespéré. Je veux terminer là-dessus pour montrer quand on a Dieu, on ne peut pas se permettre de désespérer aussi facilement. C'est le cas des chrétiens qui rechutent lourdement, ça m'est arrivé, qui rechutent lourdement et longuement dans le péché. Ils semblent n'éprouver aucune repentance, ils continuent à pécher, ils s'obstinent dans leur péché, au point même qu'ils semblent avoir éteint l'esprit de Dieu en eux. Donc il est important de dire que si quelqu'un ici était dans ce cas extrême, on trouve une consolation, une bonne consolation, dans le chapitre 5, au paragraphe 5 de la Confession de Londres de 1689. Et je vais vous lire donc disons ce texte qui vraiment est une consolation pour ceux qui se trouveraient désespérés par une chute qui n'en finit plus et une persistance dans le péché. Le texte de la Confession de foi donc de Londres dit ceci. Dans sa très grande sagesse, sa justice et sa grâce, Dieu souvent expose pour un temps ses propres enfants à de multiples tentations et aux corruptions de leur propre cœur, afin de les châtier pour leurs péchés antérieurs ou pour leur révéler la force cachée de la corruption et de la tromperie de leur cœur, afin qu'ils en soient humiliés. Son but est de les amener à une repentance plus de les amener à une dépendance plus étroite et constante de lui et de son appui. Dieu les rend plus vigilants face à toute occasion future de péché et pour d'autres objectifs justes et saints. Ainsi, tout ce qui arrive à ses élus leur arrive selon son dessein pour sa gloire et leur bien.